dès le départ du secteur privé, tout de même, qui a, je dirais, accompagné, collaboré, etc. Donc ça, c'est deux points quand même fort importants. Et avec le recul, vous identifiez déjà la naissance d'une valeur ajoutée assez importante par réutilisation, etc. Donc c'est encourageant.
Oui, j'ajouterais qu'il y a eu quand même une vraie volonté politique du président Obama. Il y a vraiment eu une rupture avec son arrivée à la Maison Blanche. Et sachant que j'ai parlé de cette notion d'open government, mais j'aurais dû aussi parler du fait qu'il a inscrit cette initiative open government dans ce qu'il avait appelé son plan pour l'innovation, American Innovation. Et pour lui, c'était aussi une composante importante de son plan de croissance. Ça fait partie des chapitres qu'il avait mis dans le plan pour réimpulser la croissance. Donc il y a aussi une volonté politique d'en faire un outil de développement économique, enfin de croissance économique. Et ça c'était aussi un élément important. Alors tout ça, évidemment, dans un environnement américain où ce que dit le président reflète ce que pensent les milieux d'affaires. Je veux dire que le président Obama est quelqu'un qui a dont les milieux de la Silicon Valley ont l'oreille. Donc c'est clair qu'il a écouté le secteur public. Mais il y a eu une vraie volonté politique personnelle qui est d'ailleurs dans le prolongement d'ailleurs d'une tradition démocrate, puisque le vice-président Al Gore avait été aussi à son époque très impliqué dans les problématiques de la société de l'information. Donc il y a une tradition du Parti démocrate aux États-Unis de beaucoup investir, si l'on peut dire, dans le secteur, dans la notion de société de l'information.
Bien. À votre connaissance, il y a des élections aux États-Unis.
Ah, pardon. Il y a des élections aux États-Unis présidentielles bientôt. À votre connaissance, est-ce que ceci fera partie, je dirais, des points saillants du programme d'Obama?
Je pense que oui, parce que je pense qu'il y a une forte sensibilité du président lui-même et de son entourage démocrate sur ces problématiques sociétales de l'information. Il y a en tout cas un sujet dont on parle beaucoup aux États-Unis, c'est la question de la neutralité du net. C'est un thème très important. Je pense que oui. Clairement, les démocrates sont historiquement, si on peut dire, compte tenu du peu d'ancienneté de ce sujet, impliqués dans la société de l'information. C'est quand même Al Gore qui, le premier, en 2003, a fait le discours le fondateur sur l'entrée dans la société de l'information. Je veux dire, c'est le premier homme politique important qui a parlé de la société de l'information, c'est Al Gore en 2003. Donc il y a une continuité, il y a autour des think tanks démocrates sur la problématique société de l'information. Donc la question de l'open source, la question de la neutralité du net sont des thèmes de démocrates. Et ils seront repris dans la campagne, c'est clair. Bon, ça ne sera pas le sujet central, mais ça fait partie des thèmes dont les think tanks démocrates sont actifs.
Très bien. Alors j'ai Alexandre là qui brûle de dire deux choses là avant que nous nous séparions.
Non, très rapidement, effectivement, je voulais juste rebondir sur les différents échanges qu'on avait eu ensemble. En donnant deux exemples concrets, tout d'abord par rapport aux relations que l'administration doit avoir avec la société civile, parce qu'on appelle la société civile, c'est à la fois les entrepreneurs et puis bien entendu les citoyens. On parlait tout à l'heure d'OpenStreetMap, qui est un excellent exemple de à la fois de réutilisation de données, de communautés vivantes, et surtout, je prends le cas du séisme en Haïti en janvier 2010, qui avait effectivement dévasté l'île. OpenStreetMap a été le moyen utilisé par les secours pour arriver à reconstituer une carte à peu près fidèle et précise d'Haïti en arrivant à géolocaliser les endroits où il y avait besoin d'acheminer des secours. Et ça a été à partir à la fois évidemment des quelques données publiques de cartes qui restaient en Haïti, des données du ministère de la Défense américain, des données de la Croix-Rouge, et bien entendu, et c'est ce que disait tout à l'heure Denis, sur le crowdsourcing, de la géolocalisation par les gens eux-mêmes, sur le terrain, et du renseignement et de la création d'informations à partir de leur smartphone. Donc c'est un point vraiment vraiment très important au fond de comment l'administration doit penser et se penser dans un écosystème, et notamment un écosystème qui vient de l'économie numérique et vient des technologies de l'information. L'autre exemple frappant, ça a été le cas de cette start-up Waze en Israël, qui est allé trouver le délégataire de service public ou l'établissement, je ne sais pas quel était la nature, enfin c'était à cheval entre ce qu'on pourrait avoir chez nous, un établissement public administratif et puis un établissement public à caractère industriel et commercial. Je crois qu'en Israël, ils n'ont pas trop la différence de statut, mais enfin c'est un établissement public qui avait toutes les données sur les infrastructures routières et autoroutières. Et cette start-up est allée les voir en leur disant « Super, j'ai une application, j'ai une idée, je veux innover, j'ai un truc super pour smartphone, mais j'ai besoin de vos données publiques sur tout le réseau autoroutier. » L'établissement public autoroutier leur a dit soit vous payez, soit vous ne pouvez pas réutiliser nos données. » Et bien entendu, cette start-up n'avait pas les moyens de payer les sommes que demandait l'établissement autoroutier. Et l'établissement public autoroutier. Et ce qui s'est passé, c'est que Waze s'est quand même lancé, ça a pris un tout petit peu plus de temps, ils ont créé une communauté de personnes, et au fond, c'était vous, nous, tout le monde, les citoyens, qui renseignaient directement et qui reconstituaient le réseau grâce au crowdsourcing, grâce au smartphone. L'affaire était pliée en l'espace d'un an, toutes les données avaient été réutilisées, l'application Waze était de bien meilleure qualité que les applications développées par le service public, et au fond, en l'espace d'un an ou deux, toutes les données publiques qui étaient jusque-là commercialisées par cet établissement public, tout simplement, on n'avait plus de clients, puisque Waze, par ailleurs, reversait à la communauté ces données. C'est un exemple qui est assez récent, parce que c'était il y a 2 ans et demi. Entre-temps, ils sont allés voir des investisseurs. Ils ont levé 100 millions de dollars entre les investisseurs, les VC de Google, Amazon et un milliardaire chinois. Ils sont en train d'investir le marché américain et en ce moment la Chine. Voilà. Donc c'est un exemple de succès. Ce qui me fait rebondir sur ce que j'entendais tout à l'heure, pardon Denis, et c'est pas une première discussion qu'on a ensemble, quand j'entends il faut que ça décolle. Oui, sauf que ça a déjà décollé. La réalité, c'est que les entrepreneurs de l'économie numérique sont déjà là. Les startups, les projets sont déjà là. Et rien que je prends juste l'exemple de Data Connection, qui est la communauté impulsée par Etalab avec ses partenaires. Il y a déjà 300 entrepreneurs qui sont réunis depuis 3 mois pour discuter, travailler et réaliser des créations de services et d'applications. Donc la réalité de l'économie numérique est que c'est un secteur dynamique qui connaît globalement peu la crise et avec des entrepreneurs qui sont déjà là. Et peut-être un mot, si vous me permettez, sur effectivement la licence. On a beaucoup parlé de l'ODBL et de la licence ouverte. Et effectivement, on a cette condition supplémentaire dans l'ODBL qui est ce que Georges Etienne appelait le share alike, le partage à l'identique. Et Thomas rajoutait que c'était au fond la licence ouverte était un modèle plus permissif, plus libéral. C'est vrai que c'est important ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la licence ouverte permet pour quelqu'un de s'approprier les données, de pouvoir apporter une plus-value, une valeur ajoutée, mais ça permet également à des gens qui souhaitent les reverser à la communauté de le faire. Donc c'est important d'avoir ce régime double et d'avoir cette cohabitation entre le partage à la communauté si l'entrepreneur, si la personne, leur utilisateur le souhaite, et en même temps de pouvoir apporter une plus-value, d'apporter une valeur ajoutée, et donc derrière de pouvoir créer un service. Dans les deux cas, il y a une économie, dans les deux cas, il y a des réutilisations. Et enfin, un tout dernier mot sur la situation aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu surtout, Philippe Coste parlait tout à l'heure de la réduction du budget. Alors c'est l'enveloppe globale allouée à l'e-administration et à l'e-government aux États-Unis. C'était pas que l'Open Data, parce qu'ils ont par ailleurs développé un certain nombre d'autres sites. Et essentiellement, c'est vrai, à l'initiative de Barack Obama, qui permettent justement de numériser, de moderniser la relation entre l'administration et le citoyen. Donc il n'y a pas pas que data.gov, mais c'est que surtout, enfin, la raison de la diminution, c'est qu'il y a eu une cohabitation, tout simplement. C'est que la Chambre des représentants est passée aux mains des Républicains et que dans le petit jeu politique naturel de la cohabitation, un certain nombre de budgets ont été revus à la baisse puisque les Républicains avaient pris possession de la Chambre des représentants. Donc c'est vraiment ça. Alors sur le portage politique, je reviens pas dessus, que ce soit, je crois, à la mairie de Paris, pour l'État, enfin en tout cas pour ce qui concerne la France, pour plein d'autres collectivités territoriales, et évidemment pour les États-Unis, le portage politique était présent, et je ne saurais que prendre. Au niveau européen aussi, le leadership est assuré par Nelly Kroes, l'open data pour la France et pour l'État était une réalité, parce que François Fillon et Nicolas Sarkozy l'ont initié, l'ont soutenu et l'ont développé. À la mairie de Paris, Jean-Louis Missika et Bertrand Delanoë ont également été les précurseurs de ce sujet. À Nantes, je reviens pas dessus, d'autres collectivités également ont un portage politique. C'est vrai que parfois c'était les services, je crois, sans me tromper, et je parle sous le contrôle de Georges Etienne, que dans, en tout cas pour ce qui concerne les collectivités territoriales, la plupart ont été impulsées par le pouvoir politique. On peut prendre le département de la Saône-et-Loire, s'il faut. Enfin, voilà, par exemple.
Merci. Alors, Monsieur Faure, Alexandre vous a presque passé la parole.
C'est très aimable à lui et à vous, Monsieur le Président. Juste un dernier tout petit mot sur les licences. Tout d'abord, c'est un débat qui n'est pas clos. C'est une licence qui est elle aussi en version bêta, peut-être des deux côtés. Un changement n'est pas exclu. Je voudrais juste rappeler deux petits points. Le premier, c'est que au moment où les collectivités locales ont choisi d'adopter la licence ODBL... Non, celles qui ont choisi d'adopter la licence ODBL, au moment où elles l'ont fait, il n'existait pas de licence d'État qui soit une réelle licence libre. C'est-à-dire que la licence, à l'époque, 2009-2010, était une licence APIE ou une licence développée par le ministère de la Justice qui ne satisfaisait pas aux prérequis de ce que doit être une licence libre. Du coup, il y a eu nécessairement une adoption de licence existante avec transposition en droit français la plus libre possible, mais avec quand même un certain nombre de garanties. Après, sur les avantages, les inconvénients de ces garanties, on peut évidemment discuter. Personnellement, je n'ai jamais rencontré une petite entreprise qui se sente freinée par cette clause. S'il y en a, on discutera la clause de Sharealike. S'il y en a, on discutera évidemment avec elle. Mais cette clause n'empêche pas du tout de monétiser la valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous récupérez des données et vous créez dessus une application, vous pouvez vendre l'application. En revanche, les données, non. Vous prenez des données et vous créez dessus une expertise qui donne lieu à un rapport d'expertise, vous pouvez très bien vendre cette expertise. En revanche, les données originales, non. Le seul point de discussion est sur la viralité, ou du moins la contagion de cette clause de Sharealike. C'est-à-dire, si je prends mes données à moi, plus les données que je suis obligé de repartager et que je les mets ensemble, qu'est-ce qu'il advient de mes propres données? Est-ce que je dois les republier? Là-dessus, les juristes se disputent encore, mais à la limite, c'est presque une incertitude qui sert la collectivité et qui sert la communauté, puisque de très grands groupes, notamment anglo-saxons, gros consommateurs de données, sont aussi ceux qui détestent le plus les incertitudes juridiques. Donc ce sont ceux qui seraient les plus à même de faire une exploitation très commerciale de cette donnée, mais c'est aussi ceux qui sont le plus à même de dire « Ah non, moi ça je ne toucherai pas, je préfère payer ». Et à ce moment-là, tout le monde y gagne.
Merci. Oui, c'est bien ça, vous voyez, dans tout ce système, il faut créer les appétences pour tous ces développements futurs. Alors, il y a différentes méthodes d'approche pour créer ces appétences, bien entendu. Le système le plus simple et le plus efficace, sans doute, c'est de faire que les données soient gratuites. Mais il peut y avoir des cas où, comme vous dites, Monsieur Faure, des grands groupes à la recherche essentiellement de sécurité juridique et de clarté dans les relations entre le licencié et celui qui octroie la licence font que ils préfèrent payer pour avoir cette sécurité juridique. Très bien. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a eu des échanges fructueux. J'ai trouvé pour ma part très intéressants les exposés qui nous ont été présentés. Et donc, je crois que je suis malheureusement obligé de conclure très vite, c'est-à-dire en clôturant nos travaux et en vous annonçant 10 minutes de pause, pas plus. Merci à tous.